Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion, voici venir votre émission littéraire, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous revenons avec notre invité sur un immense artiste, un être touchant aussi, attachant, homme de théâtre dans sa chair. Il incarne la France dans ce qu'il y a de plus éclatant, la culture, le plaisir, le brio et surtout la repartie. Je veux parler de Sacha Guitry, auquel notre invité a consacré une remarquable biographie disponible en librairie aux éditions Ovadia et qui a pour titre « Rendez-nous Sacha Guitry ». Antoine Gavory, bonjour.
Bonjour Yannick.
Bienvenue sur les banquettes de Wagon Livre et merci d'être avec nous en cette fin de matinée devant notre micro. Pourquoi ce titre « Rendez-nous Sacha Guitry » avec bien sûr le point d'exclamation qui s'impose pour une tournure injonctive.
Eh bien parce qu'on nous l'a volé. La postérité nous l'a volé. Certains artistes d'après-guerre nous l'ont volé. C'est-à-dire que Guitry a subi la colère d'écrivains d'avant la Seconde Guerre mondiale qui se sont vengés à la Libération. Il a subi la colère des femmes après la guerre. C'est très actuel. Avec les accusations de misogynie et puis surtout les accusations de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors aujourd'hui, Guitry a encore mauvaise presse ? A-t-il besoin d'être réhabilité ?
Il a une très bonne presse parmi les comédiens et dans le théâtre, dans le milieu du théâtre et de plus en plus. Moi j'ai travaillé plusieurs années sur ce livre et quand le livre est sorti, il y a Olivier Lejeune, Sardou qui se sont remis à jouer du Guitry sur scène. Par contre dans le grand public, il a toujours l'image d'un homme misogyne. Alors l'image du collaborateur, on la voit un peu moins. Mais elle est quand même enseignée puisqu'elle reste dans certains livres de littérature. Des livres de première notamment, j'avais écrit au ministère de l'Éducation nationale, puisque Guitry était un auteur collaborationniste.
Alors Guitry est né le 21 février 1885 en Russie, à Saint-Pétersbourg. La maman, c'est René Delme de Pongeste. Le père, célébrissime aussi, homme de théâtre, Lucien Guitry. Et le tsar était son parrain.
Le tsar était son parrain. Lucien Guitry était en tournée, en fait, avait signé un contrat avec le Théâtre Michel à Saint-Pétersbourg pour une dizaine d'années. Et donc il est né là-bas par accident, puisque ses parents étaient parfaitement français. Et il a fréquenté très très jeune toute la cour de Russie.
Alors ce n'est pas un enfant adopté, parce que
non.
Court sur Guitry, entre sa judaïté, des tas de rumeurs. C'est fascinant et troublant d'ailleurs.
C'est assez... On a dit qu'il avait été adopté, on a dit que son père était juif, ce qui est absolument faux. Il a dû le prouver d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, mais ça a été toute sa vie. Hein. Guitry, toute sa vie, a subi les rumeurs et les accusations.
Alors, enfant, aux côtés de son père, Lucien Guitry, ils vont courir les théâtres d'Europe. D'ailleurs, à l'âge de 5 ans, le petit Sacha joue dans une pantomime. Il y a d'ailleurs un cahier central de photographie au centre de votre ouvrage.
Il fait ses premiers pas sur scène avec son père.
Alors la relation père-fils est très importante, Antoine Gavory.
Elle est primordiale. Elle a construit le personnage. Sacha s'est construit par rapport à la présence, en fonction de la présence et de l'absence de son père, puisqu'ils sont restés, fâchés plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Et surtout
à cause d'une femme.
À cause d'une femme. À cause de la première femme de Sacha, donc Charlotte Lizès, qui était la maîtresse de Lucien. Donc il lui a piqué sa femme. Donc forcément, ça a occasionné quelques malentendus et quelques tensions entre les deux hommes pendant une quinzaine d'années. Ce qui est intéressant dans la relation avec le père, c'est que à la fin du 19e siècle, Lucien Guitry revient avec Sacha à Paris, comme il le faisait régulièrement, et il emmène son fils chercher une pâtisserie dans une boulangerie. En fait, il l'enlève et il l'emmène en Russie, puisqu'il est à ce moment-là en train de divorcer de René de Pongeste. Et donc à partir de là, Sacha et Lucien vont avoir une relation très privilégiée que n'aura pas par exemple Jean Guitry, le frère de Sacha Guitry, qui lui est totalement méconnu, qui était un journaliste, un comédien, qui est mort assez jeune d'ailleurs. Voilà.
Peut-on dire que c'est une relation père-copain ? Dans
les
plus belles années, en tout cas.
Il y a une grande, grande admiration de Sacha pour Lucien, qui considère, et à juste titre, puisqu'on disait à l'époque que c'était le plus grand comédien du monde, hein, Lucien Guitry, c'était une star internationale, comme on dirait maintenant. Et donc, il y a une grande relation d'admiration. Il y a aussi, je pense, Sacha va essayer toute sa vie d'être à la hauteur de son père.
Alors, il est vrai aussi que Lucien Guitry interdit à son fils de jouer sur scène à ses débuts avec le nom de Guitry.
Et oui, parce qu'il ne veut pas qu'il salisse son nom. Et puis en plus, ses débuts de Sacha Guitry au théâtre, alors hormis la période en Russie, mais quand il arrive en France, sont assez catastrophiques, puisque Sacha Guitry n'est pas quelqu'un du tout de discipliné. Donc il arrive sur scène un peu comme il veut. Il y a un jour, il arrive en retard à une représentation parce qu'il était parti avec Nadar.
Faire une séance de photo. C'est hilarant, voilà. D'ailleurs, ces anecdotes. Ah
bah il arrive sur scène, il oublie sa perruque dans le carrosse, donc il se retrouve avec un chapeau trop grand, donc il fait rire tout le monde, ce qui n'amuse pas du tout Lucien, et qu'il le met à l'amende. Il le met à l'amende, et à partir de là, Sacha va quitter son père pour essayer de mener une carrière tout seul.
Antoine Gavory, il faut dire aussi que Sacha Guitry bénéficie d'un entourage intellectuel absolument remarquable, puisque finalement, dans le salon de Lucien Guitry, le jeune Sacha rencontre, entend les conversations d'intellectuels, de poètes, d'écrivains français qui restent encore très forts, me semble-t-il, dans notre patrimoine littéraire. Anatole France, Jules Renard, Léon Blum, Laurent Taillade. On peut dire que Sacha n'a pas manqué d'intelligence et de finesse intellectuelle autour de lui.
Non, du tout. Et puis en plus, il y a une relation, je pense notamment à l'école, par exemple, puisque c'était un élève très très mauvais. Il était insupportable, il était indiscipliné, il travaillait absolument pas. Et en plus, ça amusait tous ces gens-là. Ça a amusé Guitry. Il y a des passages où il raconte en fait la lecture des carnets de notes avec Jules Renard, avec Capu. Enfin voilà, c'est des choses assez extraordinaires quand on y pense maintenant.
Et il n'aura jamais le baccalauréat.
Il ne l'aura jamais. Il n'a jamais dépassé la sixième.
En tout cas, là où Sacha semble avoir beaucoup de talent, c'est des talents de séducteur. Dès l'âge de 13 ans, il est amoureux de la femme de Georges Feydeau.
Oui. La femme de Georges Feydeau. Ensuite, il y a la Goulue. Il y a une scène où il se présente, il fait le mur en fait d'un internat où il est. Il va rencontrer la Goulue et il propose à la Goulue d'avoir une relation avec elle. Et puis quand elle apprend que c'est le fils de Lucien Guitry, elle le met dehors. Parce qu'on ne peut pas se permettre, au début du XXe siècle, de vexer ou de salir le nom de Guitry à Paris. Et il a très tôt des relations avec les femmes. Ou au moins des envies de relation avec les femmes. Mais il a aussi un grand-père, donc René de Pongeste, le grand-père maternel, qui est un type qui est pareil. Il y a une scène où Guitry va voir la voisine d'en face, le grand-père va le chercher, puis finalement c'est le grand-père qui passe la nuit avec la voisine d'en face. Donc c'est, voilà.
Alors on a donné son nom tout à l'heure, premier mariage, première épouse, Charlotte Lysès, dérobe à son père, Lucien Guitry. Et il y aura cinq épouses, donc, dans la vie.
Il y aura cinq épouses. Et Charlotte Lysès, elle est très importante dans la vie de Sacha Guitry, puisque elle, quand il la rencontre, elle est déjà connue, elle est déjà célèbre. Elle a déjà beaucoup joué au théâtre. D'ailleurs, elle rencontre Lucien Guitry dans le cadre de son travail de comédienne. Et c'est elle qui va vraiment le porter. Elle va vraiment, parce qu'il va s'essayer. Il va s'essayer au dessin, il va s'essayer à l'écriture, il va s'essayer à la comédie. Et puis c'est elle qui vraiment va le pousser à travailler, va lui apprendre à travailler.
Alors, il a des aventures avec les femmes, enfin des aventures, non, disons qu'il y a des mariages qui ne durent pas, on a dit, cinq épouses. La rumeur publique un temps dit que Sacha Guitry, alors là encore une rumeur que Sacha Guitry est homosexuel et qu'il est impuissant. Comment est-il dans son rapport avec les femmes et à quel genre d'homme avons-nous affaire ? On l'a dit arrogant, alors que finalement il manquait de confiance en lui. Vous, Antoine Gavory, comment vous percevez Sacha Guitry suite à l'ouvrage que vous avez écrit ?
C'est quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui, ni dans son théâtre, ni sur son jeu, son écriture, ni dans les relations avec les femmes. Alors sur les accusations d'impuissance, elles reviennent régulièrement de la part de toutes ses épouses, donc je pense qu'il y a un faisceau de présomption, ça peut être vrai.
Yvonne Printemps est redoutable.
Yvonne Printemps, elle est redoutable. Il y a une, voilà, quand elle dit, bon, il y a une scène où il passe devant, devant un cimetière, et puis Yvonne Printemps lui dit, non, c'est Sacha Guitry, pardon, qui dit à Yvonne Printemps, il lui dit, quand vous serez enterré, je ferai noter sur votre tombe enfin froide. Et puis elle lui répond, et moi je ferai noter enfin raide. Ouais. Parce qu'effectivement, il n'est pas réputé pour être un bon amant.
Mais il n'a pas tellement trompé ses épouses.
Très peu.
Parce que finalement, son théâtre met toujours en avant le thème du mariage, qui pour lui est souvent synonyme de la mort de l'amour. Mmh. Et la faute est toujours imputable à l'épouse. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a dit de lui qu'il était misogyne. Parce que les femmes sont souvent prises en faute, que ce soit dans le théâtre ou dans son cinéma.
C'est-à-dire qu'en dehors de Charlotte Lysès, qu'il a quittée, pour Yvonne Printemps, les autres femmes l'ont quitté, l'ont trompé et l'ont quitté. Alors il a eu des relations passagères avec des secrétaires, avec des... Voilà, mais sauf erreur de ma part, toujours quand il était hors mariage, quand les relations avec ses femmes étaient terminées. Après, c'est quelqu'un qui prenait pas de gants quand il a rencontré Geneviève de Séréville, je pensais à Delubac. Bon, il l'a immédiatement séduite. Voilà, il y a toujours eu des rivalités entre sa femme et ses maîtresses, mais ce sont toujours elles qui sont parties. Yvonne Printemps, elle est partie avec Pierre Freinet. On sait que ça a fait un couple mythique.
Oui, on sait qu'elle traitait Pierre Freinet comme un chien. Elle était terrible.
C'était une catastrophe. Elle revendiquait avoir eu 387 amants et elle était insupportable, Yvonne Printemps.
Antoine Gavoury, avant de marquer une première pause musicale, il y a deux autres femmes, alors qui ne deviendront pas des épouses de Guitry, mais qui ont... Je dirais même peut-être trois autres femmes. Enfin, il faut dire aussi qu'il a proposé le mariage à Arletty, à la Libération, me semble-t-il, je crois.
Et qu'elle a refusé. Bon.
Et elle n'a pas toujours été très gentille, d'ailleurs, avec Guitry, parce qu'elle a dit... Non. Alors, vous citez un biographe de Arletty. Arletty a longtemps pensé que Sacha Guitry était juif et que lui-même avait trompé son monde.
Ouais, Arletty, elle n'est pas très très claire, quand même, après la Seconde Guerre mondiale, parce que... À la fois, ils se sont énormément soutenus pendant la guerre. Et après la guerre, elle a accusé Guitry d'avoir raconté un peu n'importe quoi sur son rôle pendant la guerre. Elle a raconté effectivement qu'il était d'origine juive, alors que ça n'a jamais été le cas. C'est pas dramatique. Je veux dire, si Guitry était juif, on dirait qu'il était juif. Mais le rôle d'Arletty n'est pas très très clair. Mais comme le rôle de plein de comédiens et de plein de gens du cinéma à l'époque, dont on a complètement oublié les passages un peu sombres. Hein,
Arletty, elle a aimé effectivement un officier allemand. Elle a eu d'ailleurs pas mal de problèmes à la Libération.
Elle a été arrêtée, elle a été interrogée.
D'ailleurs, concernant, c'est pareil justement, ce qui est magnifique dans votre biographie, Antoine Gavoury, et on se régale, c'est le nombre d'anecdotes, notamment celle où Guitry rencontre le grand rabbin et lui dit est-ce que je suis juif. Et lui, à cette... réponse magnifique, superbe. Hélas, non.
Oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'il a fallu qu'il prouve qu'il n'était pas juif.
Alors, deux autres femmes qui jouent un rôle important dans la vie de Sacha Guitry. L'une va jouer dans un très grand nombre de ses pièces et également dans ses films. C'est Pauline Carton. Et puis, il y a la secrétaire, la fidèle Fernande Choiseul, mais qui partira, elle, à cause de la dernière épouse, celle qui était d'origine roumaine et qui, en plus, n'aimait pas le théâtre, la dernière
épouse.
Marconi.
Alors, l'Anna Marconi, c'est un grand problème pour tous les gens qui aiment Guitry. Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés n'aiment pas l'Anna Marconi, qui a quand même eu le mérite de vivre avec un Guitry vieillissant et malheureux, parce qu'après la guerre, Sacha Guitry était quelqu'un vraiment très malheureux, qui a eu énormément de problèmes... personnel, enfin mentalement et moralement, c'était quelqu'un de détruit.
Oui, l'Anna Marconi, elle a 30 ans et lui a un peu plus de 60 ans.
Il a 59 ans quand ils se rencontrent. Et Fernande Choiseul, oui, alors Fernande Choiseul, elle est très importante parce qu'elle a raconté beaucoup la vie de Sacha Guitry. En même temps, elle est partie aussi parce qu'elle n'était pas assez payée.
Et pourtant,
quelqu'un qui ne payait pas.
Alors, on parlera de Guitry et l'argent, parce que de l'argent, il en a eu.
Il en a eu énormément.
Généreux, tout de même, aussi. Il a beaucoup donné.
Très généreux, mais en fait, il devait s'imaginer que le fait de travailler pour lui, c'était déjà une récompense suprême. Mais pas forcément par arrogance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment la notion de l'argent. Et Pauline Carton, alors elle, c'est quelqu'un de fantastique, parce que c'est une actrice qui est issue d'un milieu très bourgeois et qui, toute sa vie, a joué les femmes de ménage. Et les servantes, et elle a travaillé effectivement, elle a quasiment joué dans tous les films de Guitry, et puis elle a fait beaucoup, beaucoup d'autres films derrière. Mais il y a une vraie relation entre eux qui est assez impressionnante, et le jour de son arrestation d'ailleurs, elle sera présente aussi.
Rendez-nous, Sacha Guitry, c'est le titre de la biographie de notre invité, Antoine Gavory. On marque une première pause musicale et on se retrouve bien sûr juste après.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin, je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus, clin de façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes, 2 secondes. Y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin, lâche-moi la main. On verra bien si ça se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal au que de bien. Nous deux c'était rien, nous deux c'était rien.
Antoine Gavory, encore merci d'être avec nous ce matin dans Wagon Livre sur Radion. Je rappelle le titre de votre ouvrage disponible en librairie aux éditions Ovadia. Rendez-nous, Sacha Guitry. Alors parlons de Sacha Guitry et de la création théâtrale. Guitry, c'est surtout un théâtre de boulevard.
C'est un théâtre de boulevard. C'est un théâtre de boulevard bourgeois d'avant la Première Guerre mondiale. Une écriture fin 19e siècle, avec tous les codes de la bourgeoisie, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure des femmes, la misogynie, l'aristocratie, voilà, c'est des choses, c'est vraiment du théâtre de boulevard.
Alors un théâtre d'alcôve, bon, qui reste dans la tradition, effectivement, d'un théâtre bourgeois grotesque, farcesque aussi un petit peu, ubuesque par certains aspects parfois.
Voilà, farcesque. Après, il y a toute une période après les années 30 où il va se mettre à faire du théâtre très historique. Je pense à Pasteur, des choses comme ça qui sont beaucoup plus sérieuses, qui sont vraiment des hommages. C'est même 1919 Pasteur, puisque c'est son père qui va endosser le rôle. Mais sinon, la plupart des pièces, c'est-à-dire sur 126 pièces, c'est 90 pièces où c'est vraiment du théâtre comique, c'est vraiment du comique. C'est du comique d'esprit, plus que du comique de situation comme on l'imagine maintenant.
Alors Guitry écrit sa première pièce en 1902, il a 17 ans, et alors ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit Antoine, c'est un torrent de création théâtrale, et pas qu'en France, puisque finalement les tournées sont européennes, et Sacha Guitry va jouer devant des parterres de rois, d'ambassadeurs, de ministres, c'est vraiment, c'est époustouflant.
Il a joué dans le monde entier, il a même joué aux États-Unis, il a joué en Égypte. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il détestait l'avion.
Mais alors, il jouait en français, donc il y avait donc un français, public étranger qui
venait. Il jouait beaucoup
venait
en Russie aussi, où on parlait couramment le français. Et effectivement, quand les déplacements, par exemple, présidentiels emmenaient nos chers présidents de la République en Angleterre, notamment devant la cour d'Angleterre, c'est lui qu'on appelait pour venir jouer ses créations.
Alors en plus, j'en cite quelques-unes, hein. Le Veilleur de nuit, qui est joué notamment avec Harry Bore. Alors c'est là où Charlotte Lysès joue un rôle de servante, mais avec une moustache. Elle lui en voudra d'ailleurs beaucoup, disant qu'il a, d'une certaine manière, brisé sa carrière.
Mais c'est pas faux.
La prise de Berg op Zoom en 1912, 205 représentations. Cadri, Mon père avait raison en 1919, 122 représentations. Désiré, qui sera adapté d'ailleurs au cinéma, 200 représentations. Et puis, comme vous l'avez dit, Antoine Gavary, il y a ces pièces de théâtre au sujet historique. Alors, c'est Histoire de France, c'est une pièce en 14 tableaux. Oui. Et là aussi, dans l'introduction à notre échange, je disais qu'il incarnait l'esprit français. Il est extrêmement attaché au patrimoine culturel, historique et littéraire de notre pays.
Il est attaché aux grands hommes, surtout. C'est vraiment les hommes, c'est Molière, c'est les grands hommes de théâtre, c'est les grands hommes politiques, parce qu'il a un attachement particulier à Clémenceau, par exemple. Oui. Et c'est ça qu'il essaye de transmettre à travers son théâtre. Et c'est ça aussi qu'il essaiera de transmettre à travers le cinéma par la suite.
Mais en tout cas, il a rencontré des peintres, que ce soit Monet, un Léon Blum. C'est inimaginable.
Le premier film qu'il a fait, alors qu'il, c'est bon, le deuxième, on va dire, parce qu'il y a un premier film amateur qui dure 3-4 minutes. Mais le vrai premier tournage, c'est ceux de chez nous en 1915. Donc où il a filmé, il y a des images de Sarah Bernhardt, de Monet. Il y a des images qui sont uniques.
Et c'est sa manière à lui de lutter contre l'Allemagne, puisqu'en fait il y avait eu un manifeste des 93, c'est-à-dire un appel des intellectuels allemands aux nations civilisées. Alors il a la haine du Bosch quand même, s'il n'a jamais fait la guerre de 14 pour raison de santé, il ne jouera jamais en Allemagne.
Il jouera jamais en Allemagne, il refusera que ses pièces soient adaptées en Allemagne, sauf si elles sont jouées par les prisonniers dans les camps de concentration. Et il l'a autorisé uniquement pour que son traducteur, qui était juif allemand, puisse vivre. Donc voilà, mais sinon, il a une haine de l'Allemagne qui est issue de la guerre de 1870. Hein. Il est né 15 ans après. Il y a une culture anti-germanique très forte entre 1870 et 1915. Et effectivement, il va refuser aussi, contrairement à beaucoup d'autres, de tourner pour la Continentale, par exemple, dans les années 40.
Et justement, vous disiez qu'il avait fait aussi des tournées aux États-Unis. C'est vrai qu'il a incarné la voix de la France, d'une certaine manière. Et il croise un clown qui s'appelle Charlie Chaplin. C'est très, très amusant. Alors, il y a une de ses pièces intitulée « Le blanc et le noir » où on a dit qu'il y avait une forme de racisme ordinaire. C'est très drôle, cette comédie, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui, pour se venger de son mari, le trompe avec un noir.
Il y a du racisme parce que on est dans les années où le racisme est toléré. Oui. Quand il y a l'exposition nègre en 1933, par exemple, ça ne choque personne. On voit des noirs enfermés dans des clôturés comme ça, dans des espaces où on vient les voir. Ça ne choque personne parce que c'est très d'actualité de juger maintenant l'histoire et le passé. Hein. Dans ce moment, on est face à plein de sujets comme ça. Mais dans ces années-là, l'antisémitisme est quelque chose de courant, le racisme est quelque chose de courant. Et donc maintenant, oui, on peut juger que cette pièce est profondément raciste avec nos codes d'aujourd'hui.
J'aime beaucoup, dans l'épilogue de votre biographie, ce que vous écrivez, Antoine Gavory, et d'ailleurs j'en donne lecture. Notre époque est branlante, se pose des questions sur son avenir, sur son identité même et ses valeurs. Face à cela, le théâtre de Guitry, son amour de la France, semble bien désuet. Mais il est aussi, pour qui le veut, le renouveau idéologique. Toujours se souvenir que notre pays détient dans son histoire un patrimoine qu'il ne sera jamais possible d'ignorer. Winston Churchill a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Il en est de même pour sa culture. Un peuple qui n'a pas conscience qu'il est l'héritier d'une certaine culture ne peut ni s'identifier, ni être fier de lui. Il serait peut-être bien de remettre Sacha Guitry à l'honneur dans les lettres et à l'école aussi.
C'est pour ça qu'il faut qu'on nous le rende. Mais en plus, moi, cet épilogue, je l'ai écrit parce que j'ai travaillé 9 ans sur ce livre. J'ai fait 5 ans de recherche et 4 ans d'écriture à peu près. Et c'est vraiment, s'il y a un livre qui m'a changé, j'en ai fait une quinzaine à peu près, c'est vraiment celui-ci. C'est-à-dire que je suis même devenu patriote. Alors que j'étais quelqu'un de plutôt antimilitariste, la notion de patrie, c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup, mais je suis vraiment devenu quelqu'un de plutôt patriote. J'ai découvert à travers les écrits, parce que j'ai lu énormément de livres sur lui et tous les livres de lui, j'ai vu les films et les pièces qu'on a pu voir, et j'ai vraiment appris à connaître mon pays et mes racines culturelles, alors que bon, je suis allé à l'école, mais il y a plein de choses que j'ai fait des découvertes incroyables.
Alors, revenons sur Guitry et le cinéma. Au départ, il a une grande méfiance à l'égard du cinéma. D'abord parce que ce n'est pas littéraire. Donc, si ce n'est pas littéraire, ce n'est pas digne d'intérêt intellectuel.
Il y a ça. Puis pour il a ce lui, rejet, en tout cas. Pour lui, c'est une concurrence déloyale. Donc, voilà, parce qu'il explique qu'au théâtre, il faut jouer du début à la fin. Il faut jouer une pièce. Au cinéma, on peut se permettre d'arrêter, de reprendre quand ça ne va pas. C'est quelque chose pour lui de... Voilà, il veut pas y toucher, même s'il a fait ce petit film, ceux de chez nous, donc il y avait, comme vous l'avez dit, il y avait une volonté de provoquer un peu l'Allemagne à l'époque, puis il y avait aussi une volonté de garder des images de gens qu'on n'a jamais plus vus après, puisque c'est les seules images, je pense à Monet ou à Sarah Bernhardt. Mais au début, il n'en veut pas du cinéma, il n'en veut absolument pas. Et puis, il va découvrir le pouvoir du documentaire du cinéma, notamment grâce à ceux de chez nous. Alors ceux de chez nous, il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'avec sa femme, donc Charlotte Lizès, ils ont inventé la post-synchronisation quand même.
Oui, on est à l'époque, le cinéma n'est pas encore parlant, il faut attendre 1930 je crois.
Exactement, et donc ils vont inventer avec Charlotte la post-synchronisation, et à partir de là, il va rester une vingtaine d'années sans tourner, et il va se remettre à tourner en 1936. Exactement, 1935 et 1936.
Alors là, c'est le roman d'un tricheur qui est adapté d'un livre. Moi, je me souviens, je pense que c'est le premier film adolescent que j'ai vu au Ciné-Club. C'était sur Antenne 2 à l'époque, et c'était un régal. Il y a une prestance, et puis il y a une élocution, un français, comme on ne l'entend plus parler aujourd'hui.
Il y a ça, puis c'est un film narratif, ce qui est plutôt rare, puisque le seul qui en ait fait un autre, enfin, dans les réalisateurs occidentaux, c'est Orson Welles d'ailleurs, qui disait qu'il s'était beaucoup inspiré du roman d'un tricheur quand il a fait son film. J'ai oublié le titre. J'ai perdu le titre du film d'Orson Welles. C'est quand même dramatique.
Citizen Kane.
Citizen Kane, merci. Voilà.
Pour citer un des plus célèbres.
Non, mais c'était ça. Donc il a revendiqué Orson Welles s'être inspiré de Guitry. Et au début, on reproche beaucoup à Guitry de filmer le théâtre. Et finalement, en filmant le théâtre, il va inventer beaucoup du cinéma actuel. Il y a beaucoup de choses, on pense au roman d'un tricheur, il y a des plans qui sont des inventions, il y a le cinéma narratif qui est quand même une chose assez incroyable, puisqu'on n'a que lui qui parle. Le personnage ne parle pas, donc c'est assez...
Oui, on le voit assis à une terrasse en train d'écrire le roman du tricheur.
Voilà, il y a quelques échanges, mais c'est tout le reste du film, c'est lui qui raconte, qui parle pour les personnages. Déjà, au niveau de l'écriture, il y a une performance incroyable.
Alors, cinéma jusqu'à sa mort, hein, il meurt en 57. Il y a aussi, alors là encore, toujours dans la manière d'honorer l'histoire de la France, si Versailles m'était compté, il y avait le projet de Si Paris m'était compté... Si Versailles m'était compté, alors là, c'est un gratin d'actrices et d'acteurs parmi les plus grands. Bon, il y a aussi Edith Piaf qui chante « Ah, ça ira ».
Il y a vraiment deux périodes dans le cinéma de Guitry. Il y a le cinéma d'avant-guerre où là, c'est vraiment, il va mettre à l'écran ses pièces, il va porter ses pièces à l'écran. Et il y a le cinéma d'après-guerre qui est vraiment le cinéma historique. Donc c'est Remontons les Champs-Élysées, où là, il va raconter l'histoire de la France. Il va aussi, comme dans Si Versailles m'était compté, par exemple, il va aussi montrer au monde culturel que tous les comédiens veulent jouer avec lui. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont commencé avec Sacha Guitry. Voilà, il y avait une fascination, malgré les accusations, malgré l'arrestation, malgré... Il a été interdit de tourner pendant 3 ans, il a interdit de jouer pendant 3 ans. C'est quelqu'un qui était fascinant. Enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés, qu'on jouait, qu'on eu la chance de commencer avec lui, c'était des gens qui étaient fascinés par Guitry.
Antoine Gavory, d'ailleurs, vous l'expliquez particulièrement bien dans votre biographie consacrée à ce formidable comédien qu'est Sacha Guitry. Pourquoi donc Sacha Guitry détestait-il Louis Jouvet?
Parce que Louis Jouvet était un très très bon acteur. Et ça, je crois que Guitry avait du mal à supporter, parce que Jouvet, il a reconnu que c'était quand même un grand acteur. Mais je pense qu'il y avait, c'était dans la façon de... C'est des acteurs qui sont assez similaires. C'est drôle que vous parliez de lui, parce que c'était un projet que j'avais de faire une biographie de Louis Jouvet.
Un ancien bègue en plus.
Un ancien bègue. Et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre les deux qui étaient assez incroyables. Et je me suis toujours demandé si ce n'était pas pour ça justement qu'il se détestait.
Rendez-nous Sacha Guitry, c'est le titre de la biographie que vous consacrez à cet immense et talentueux, à la fois créateur, acteur et comédien. On marque une nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons avec notre invité Antoine Gavory dans une poignée de minutes.
Thinking back on all my friends, years and years of birthday parties, little fiends on Halloween, monsters in the fields. Losing track of all my friends, guess who's moving in together. Put a grown-up costume on, only you and me. Haunted houses where we sleep, with the ghosts and boyfriends watching. Guess we want for nothing, how paradoxical. Brace the walls with good intentions, temporary architecture. Build me something beautiful, beautiful. Why you have to be a goddamn saint? Don't you see it only makes this hard? Why you have to be a goddamn saint? Nobody's dying for this love. Saint who raised me from the dead, saint who saved.
Antoine Gavory, il y a l'affaire Goncourt, on se rend compte que tout au long de la vie de Sacha Guitry, il y a quand même un grand nombre de personnes qui sèment des peaux de banane, pour utiliser une image...
Oui. Il y a l'affaire Goncourt.
Il y a une haine à son égard, c'est de la jalousie. C'est...
Ben, il y a le fait que ce soit un comédien, par exemple, pour l'Académie française, on lui demande d'arrêter de jouer.
Oui, alors ça, c'est inconcevable pour lui de renoncer aux planches.
D'ailleurs, quand on y pense maintenant, c'est ridicule. Moi, je connais très très bien le doyen de l'Académie française, René Dobaldia, qui est un homme de théâtre, voilà, alors qu'il ne jouait pas sur scène. Mais le théâtre, à l'époque, n'est pas considéré comme une littérature. Et donc, on lui a demandé. C'est la même raison pour laquelle il y a eu cette histoire du Goncourt. Et l'histoire du Goncourt, on ne va pas en parler parce qu'elle est très complexe et très longue. Oui. Mais l'affaire du Goncourt en 1936, c'est ce qui va déclencher tout ce qui s'est passé en 1944. C'est-à-dire que ceux qui se sont opposés à lui au moment de l'affaire Goncourt vont le dénoncer en 1944. C'est des CAF, c'est des gens comme ça.
Alors qu'il avait en plus décidé de léguer son hôtel particulier à l'Académie Goncourt, d'ailleurs qu'il en démissionnera en octobre 1948. Alors justement, rentrons un peu dans les années sombres où la lumière va être mise sur Guitry, mais c'est quand même des gens qui n'ont pas voulu le laisser dans l'ombre, mais qui ont mis la lumière sur lui pour mieux le salir. Alors, nous l'avons dit, Guitry a toujours refusé de jouer en Allemagne, et vous avez un chapitre dans votre ouvrage, Antoine Gavory, dans lequel vous dites que Sacha Guitry, résistant malgré lui.
Oui, c'est ça. Guitry, ce n'était pas quelqu'un qui s'intéressait à la politique. Et quand il est... toute l'histoire, en fait, de Guitry et la résistance, entre guillemets, elle commence au moment de la signature de l'armistice par le maréchal Pétain. Guitry est à Dax avec Bergson, le philosophe. Et Bergson lui dit « Paris vous a tout donné, vous ne pouvez pas abandonner Paris ». Et donc, il décide de remonter. Il se trouve que l'officier allemand qui est là est un professeur de philosophie allemand qui a une grande admiration pour Bergson, qui est juif quand même. Et donc, il va leur donner des laissez-passer pour remonter à Paris. Guitry va aller voir Trébor, qui est le président de l'Association des théâtres de France à l'époque, et va va demander la réouverture des théâtres qui ont été fermés par les Allemands. Et c'est à cette occasion-là qu'il va aussi rencontrer le gouverneur de Paris, puisque c'est lui qui va donner l'autorisation de rouvrir les théâtres. L'affaire Guitry, en fait, il y a quatre rencontres. Hein. C'est quatre rencontres avec quatre fois avec des Allemands qui vont le conduire à être accusé de collaboration.
Alors, très amusant, en avril 1942. Je dis amusant parce que c'est ce que Guitry va dire à ce haut dignitaire nazi. En avril 1942, deux SS conduisent Sacha Guitry et son épouse chez le maréchal Göring. Je pense qu'il est de passage à Paris. Et je pense que Göring veut absolument voir Sacha Guitry. Et voici ce que Guitry dira, puisque Göring avait voulu le voir par curiosité. Et donc, je trouve ça très très amusant. Il écrit donc à René Benjamin. « Je vois ce gros homme en uniforme, couvert d'une extraordinaire batterie de cuisine qui se rue sur moi, me prend à bras-le-corps, me tâte et me fait « Ah, grosse vedette, vedette !» Je recule d'un mètre, je le toise et lui dis « Du calme, monsieur le maréchal, nous sommes entre hommes. » C'est très drôle.
C'est très drôle. En même temps, c'est tellement pathétique pour le pauvre Göring. Voilà, mais ça a été ça. En fait, il a pendant toute la guerre, hein, c'est sa notoriété qui l'a aidé. Voilà, il y a des scènes dans les théâtres qui sont assez hallucinantes.
Lui dit qu'il faut être malin à la barbe des Allemands.
Quand il va faire représenter Pasteur pendant la guerre, Pasteur dans la pièce dit « Faites-moi penser demain matin à ce que je rende mon diplôme à l'Allemagne ». Quand il va faire représenter Pasteur, à la fin, il y a des Allemands qui se lèvent et qui crient « Vive la France ». Et il y a un officier allemand qui va venir le voir dans sa loge en lui disant « Demandez-moi ce que vous voulez ». C'est là qu'il va demander la libération d'une dizaine de personnes, dont Bergson et Tristan Bernard.
Tristan Bernard,
n'est pas d'accord. Voilà. J'aurais pas l'occasion d'en discuter avec elle, mais voilà.
Alors Tristan Bernard, c'est un poète âgé d'ailleurs, et il a cette petite réflexion hyper émouvante. Il dit pourquoi voulez-vous qu'on fasse du mal à quelqu'un dont le nom est dans le dictionnaire? Oui. C'est très très émouvant et naïf.
Il dira aussi à sa femme, il dira nous vivions dans l'angoisse, maintenant nous vivrons dans l'espoir quand ils sont arrêtés.
Concernant l'attitude de Sacha Guitry durant l'occupation, Antoine Gavory, vous semblez d'une grande honnêteté. Je vous cite. Sacha Guitry a-t-il pu tirer des bénéfices vis-à-vis de l'occupant par sa notoriété? Oui. Et un peu plus loin, vous écrivez. Guitry utilise sa notoriété, mais pas une seule fois à son bénéfice.
Exactement ça. Il utilise sa notoriété pour faire ouvrir les théâtres, pour autoriser les Juifs à jouer en tant que technicien, puisqu'il n'avait plus le droit d'être comédien,
Faire des galas de charité aussi pour recueillir de l'argent.
En tout, il a récolté à peu près, on a estimé à peu près à 10 millions d'euros sur la période 1941-1944, qui ont été donnés donc aux enfants de soldats, qui ont été donnés aux associations de bienfaisance.
Alors, il y a l'arrestation du poète Max Jacob. Là aussi, c'est très intéressant. Cela apparaît dans votre ouvrage sous le titre « L'affaire d'Anne Frank ». Il y a eu d'ailleurs une adaptation du texte de d'Anne Frank, l'écrivain d'Anne Frank. C'était Monsieur Max. Et là encore, on a cherché certaines personnes...
Je crois qu'il y a eu un...
Que dire de cette affaire de l'arrestation de Max Jacob qui meurt en camp de déportation ?
Il va mourir alors que tout le monde est persuadé qu'il a été libéré. Je pense que c'est malheureusement un problème de communication entre les autorités allemandes, entre les artistes français qui se sont battus pour le défendre. Là où je m'en suis un peu pris à d'Anne Frank, c'est que d'Anne Frank accuse ouvertement les écrivains de l'époque, qui étaient très importants parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont rouvert, en fait, qui ont redonné l'envie d'utiliser la culture pour se défendre contre l'allemand, c'est d'abord les écrivains avant les hommes de terre.
Oui, des Giono, des Pagnol, voilà, qui ont été un petit peu inquiétés aussi à la libération.
Qui ont été inquiétés par la suite, mais c'est vraiment ces gens-là qui ont dit on ne va pas se laisser faire et on va continuer à écrire, à travailler, à faire de l'art. L'affaire Jacob, je pense que malheureusement, c'est un problème de communication, c'est un problème de...
Il aurait pu, vous croyez, échapper à la mort ?
D'après d'autres livres que j'ai lus, non, parce qu'il était malade et qu'il était vraiment en fin de vie. Donc, voilà.
Antoine Gavory, si vous le voulez bien, on marque une dernière pause musicale à bord de ce wagon-livre ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rendez-nous, Sacha Guitry, aux éditions Ovadia. Une biographie absolument passionnante. Moi, je me suis régalé à découvrir dans le détail la vie et certaines facettes de l'œuvre de Sacha Guitry, qu'on accompagne tout au long de la lecture avec beaucoup de sympathie, de sourire et d'humour, puisque vous rendez compte d'un grand nombre de répliques. Alors, il y a moyen d'en noter aussi dans un carnet. C'est délicieux. Et je rappelle aussi un cahier central de photographie où l'on voit un monsieur très, très élégant, comme on dirait aujourd'hui, qui a la classe.
Ah bah il était classe. Il était beau.
C'est vrai que c'est un bel homme impressionnant. Alors quand en plus on met le son et qu'on le voit en mouvement, il y a quelque chose d'absolument captivant. Quoi.
Et sa voix, c'est à la fois un avantage et un gros inconvénient. C'est-à-dire que quand on voit des gens jouer du Guitry maintenant, il faut avoir soit beaucoup d'imagination quand on aime Guitry, ou alors il faut vraiment avoir de très bons comédiens.
Avant la petite virgule musicale, je voudrais saluer et remercier les gérants de l'hôtel à Vallon-Vauban qui nous accueillent dans leur salle de réunion pour l'enregistrement de cette émission. C'est Wagon Livre. Nous revenons avec Antoine Gavory, je vous demande pardon Antoine, pour continuer à parler de Sacha Guitry. On va d'ailleurs, juste après la pause musicale, évoquer le Guitry très inquiété à la Libération dès 1944.
Le temps filait, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaître à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères, et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux. Si la vie
vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
Retour avec notre invité Antoine Gavory pour sa biographie « Rendez-nous Sacha Guitry » avec une préface de l'historien Raphaël Delpart. Je me rappelle l'avoir rencontré, l'avoir rencontré à la fête du livre à Autun il y a quelques années. Et puis nous, Antoine, on avait eu l'occasion d'enregistrer une émission il y a
7 ans.
7 ans exactement.
J'y pensais tout à l'heure, c'était en 2013 pour la sortie du
Cerf Noir. Un roman à l'époque disponible aux Raphaël éditions Delpart, de l'Escargot Savant.
Voilà. Oui, Raphaël Delpart a un grand rôle dans ce livre parce que je l'ai rencontré sur un salon du livre. J'avais fait un petit bouquin d'une trentaine de pages et il est venu me voir. Alors, Delpart, c'est un grand type à la Henri Troya, des grosses mains, une grosse voix, enfin, très, très impressionnant. Puis il vient me voir en me disant « Vous avez écrit sur Sacha Guitry ?» L'air de dire « Attention, c'est un blasphème. » Et en fait, il me dit « Votre livre n'est pas assez grand, faites quelque chose de plus important, je vais aller rapidement. » Et il m'a appelé pendant 2-3 ans comme ça et à chaque fois, il me disait « Alors, t'en es où de ton Guitry ?» Un jour, je lui ai dit « Puisque tu me donnes Guitry, je vais le prendre. » Et puis, je me suis mis à travailler sur ce projet. Donc voilà. Et c'est Alain Rey d'ailleurs qui a fait la quatrième de couverture.
Effectivement.
Il y a eu un bel.
Pas n'importe qui, Alain Rey. D'ailleurs, le dernier paragraphe de la préface de Raphaël Delpart. Aujourd'hui, un jeune homme d'à peine 40 ans a l'ambition de nous rendre Guitry. Remercions-le. Remercions-le mille fois, exprimons avec lui notre joie de vivre et crions ensemble à la face des essoufflés de l'esprit. Vive Guitry.
Voilà.
Alors, vous avez une publication aussi toute récente chez un éditeur prestigieux, pardonnez-moi Antoine, Mercure de France.
Oui. Donc, j'en suis très fier.
Le goût de l'esprit français, un recueil.
Alors, c'est une anthologie annotée, en fait. Donc j'ai fait un choix à la demande d'Isabelle Gallimard, d'une 30 ou 32 auteurs. Donc on part de Bussy à Butin jusqu'à aujourd'hui, avec des femmes, puisqu'on a des femmes d'esprit, Ninon de l'Enclos notamment, Marie-Anne Beauvais, donc des gens un peu qui ne sont pas forcément connus pour leur esprit. Je pense à Marie-Anne Beauvais, beaucoup plus connue pour son féminisme. Et donc c'est une anthologie qui fait 150 pages, qui est sortie la semaine dernière, et puis avec laquelle je pense que je vais prendre beaucoup beaucoup de plaisir, parce que j'ai eu un énorme plaisir déjà à découvrir des textes.
Donc je rappelle le titre, hein, « Le goût de l'esprit français » d'Antoine Gavory au Mercure de France. Et aujourd'hui, nous parlons de « Rendez-nous Sacha Guitry » aux éditions Ovadia. Sacha Guitry et les tracas, plus que des tracas, très, très férocement inquiétés dès le mois d'août 1944. Il est arrêté donc chez lui, là au 18 avenue Élysée-Reclus à Paris. D'ailleurs, c'est amusant parce que vous parlez d'un jeune soldat qui s'appelle Pierre Tchernia.
Oui.
Alors, il y a Alain Decaux aussi qui est cité. Est-ce que je peux vous demander de nous dire un peu plus ?
Tchernia, alors ça, c'est une anecdote qui m'a été rapportée par un ami journaliste qui a interviewé Pierre Tchernia. Aurait, parce que moi, je n'ai pas trouvé de traces écrites, mais bon, a priori, il serait venu la veille en fait, de l'arrestation avec des soldats. Il aurait demandé à ses copains de ne pas arrêter Guitry. En disant on va pas l'arrêter, on s'en va. Et ils sont repartis. Et Decaux, alors c'est assez formidable parce que Decaux, le jour où il apprend l'arrestation de Guitry, va au 18 avenue Élysée-Reclus, va voir Fernand de Choisel, en l'occurrence, qui était là. Et ils ont gardé la maison parce qu'ils avaient peur que la maison soit pillée. Donc ils ont dormi avec un de ses camarades dans le hall de la maison. Decaux avait 14-15 ans à l'époque, hein, en 44. Et oui, donc il y a eu des rencontres comme ça qui étaient... Et ils sont devenus après très très amis avec Decaux et Guitry sont devenus très amis.
Et voilà donc, en août 1944, Sacha Guitry accusé d'intelligence avec l'ennemi. Mais étonnamment, sur les documents judiciaires concernant le motif de l'arrestation, il est écrit « ignoré ».
Il n'y a rien.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, Antoine Gavory ?
Il y a, alors quelques jours avant la libération, il y a Albert Wimetz, donc, qui était son ami d'enfance et avec qui il a beaucoup travaillé, qui lui dit « appelle Claude Dauphin qui était dans la résistance aux côtés de Leclerc » et qui lui dit « obtiens une attestation pour dire que tu n'as pas collaboré ». Et donc Guitry lui répond, il lui dit « je vois pas pourquoi je ferais ça, ce serait m'accuser moi-même d'avoir collaboré ». Et donc il est arrêté et effectivement il va y avoir une instruction de 3 ans. Pendant 3 ans, le juge, alors j'ai beaucoup pensé à ça dernièrement, le juge va passer des appels à témoins pour trouver des accusateurs. J'ai pensé à ça par rapport à l'affaire Mazneff, où la justice fait la même chose en ce moment. Elle est en train de chercher des accusateurs à travers la presse. Il va y avoir des accusations farfelues. Il va y avoir des comédiens qu'il a beaucoup aidés pendant la guerre qui vont se retourner, d'ailleurs.
Alors, des gens qui disent l'avoir vu...
avec des Allemands.
Avec des Allemands sur une tombe. Ouais. Il y en a qui disent qu'il avait sculpté le portrait de Mussolini, alors qu'il s'agissait finalement de portrait
Lucien.
Qui est toujours de Lucien ou de Jules Renard. Je sais
alors, c'est le buste de Lucien Guitry qui est placé devant le 18 avenue Élisée-Reclus, qui est toujours, puisque l'hôtel particulier a été détruit. Et oui, on lui a dit que c'était le buste de Mussolini à l'époque. Et la tombe, c'est quand ils ont rapatrié l'Aiglon en fait à Paris. Il y est allé. C'est les Allemands qui avaient souhaité rapatrier l'Aiglon aux Invalides. Il est allé à la cérémonie effectivement parce qu'il voulait représenter la France. Parce qu'il avait cette conscience de représenter la culture française parce qu'on lui avait dit depuis 50 ans. Donc il n'y avait pas de raison que ça change. Et donc il est arrêté. Il va être jugé. Il va être enfermé 3 mois à Drancy. Où à peu près tous les jours, on vient le voir en lui disant « demain, on va vous exécuter ».
Et il fait preuve quand même de beaucoup de courage. Il semblerait qu'il n'ait pas peur.
C'est ce qu'il dit. Moi, quand on lit 60 jours de prison ou 4 ans d'occupation, on se rend compte quand même qu'il y avait de la peur. Après, il a pris ça. Bon, il l'a réécrit après la guerre. Il a réécrit tout ça parce qu'il avait un peu l'occasion de prendre des notes. À Drancy, c'était plutôt rare. Mais... Il y a des textes qui montrent quand même qu'il avait peur.
En tout cas, pour l'accabler, on va investiguer le passé. Hein. Alors, il est vrai qu'il a rencontré Mussolini en 1931, mais c'était peut-être une simple...
Il a rencontré Mussolini parce que Mussolini était un chef d'État. Et puis c'était avant la marche sur Rome de Mussolini, c'était avant le fascisme, comme il a rencontré Pétain, parce que Pétain, pour lui, c'était le vainqueur de Verdun. En 1940, c'était pas encore le collaborationniste. Enfin voilà, et on va chercher effectivement, on va même l'accuser. C'est là qu'on va l'accuser d'être juif, alors que tout prouve que non. Enfin voilà, il y a eu des accusations farfelues. Et au final, quand il se pointe devant le, quand il arrive, pardon, on est à la radio, quand il arrive devant le juge d'instruction lui demande mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? Et donc il y a un dossier qui est complètement vide. Et donc il va y avoir un non-lieu. Mais ce non-lieu, c'est 3 ans de procédure, c'est 3 ans d'interdiction de tourner, de jouer. Au théâtre, c'était un homme qui gagnait sa vie par le théâtre, donc quand on l'empêche de travailler pendant 3 ans, et ça va le traumatiser jusqu'à la fin de ses jours.
Mais peut-on aller jusqu'à dire qu'il y aurait eu des intellectuels français qui auraient cherché à régler leur compte avec Guitry en disant à la résistance, il faut arrêter Sacha Guitry?
Il y en a beaucoup qui l'ont accusé pour pouvoir se dédouaner eux-mêmes de... par peur d'être accusé, mais c'est ce qu'il explique à un moment. Il dit, en fait, tout le monde accusait tout le monde de peur d'être accusé.
Finalement, Guitry sort très éprouvé de cette honte.
Il en veut beaucoup. Il a beaucoup de colère, en fait, vis-à-vis de la France, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de...
Et puis, son entourage aussi va connaître une forme d'épuration aussi, parce qu'avoir été ami de Guitry, on devient vite suspect à la Libération aussi.
Ils deviennent suspects, il y en a beaucoup qui vont l'éviter, il y a des gens avec qui... En fait, il va faire un tri, il a même été très injuste, parce que, par exemple, avec Albert Wimetz, il a été très très injuste. Il l'a écarté complètement de sa vie, alors que c'était un type qui était fidèle depuis 1890, quoi. Ça faisait 55 ans ou 60 ans. Et il va s'isoler. L'Anna Marconi va un peu l'aider, parce que l'Anna Marconi, elle a quand même beaucoup isolé Guitry. Et donc, c'est là qu'il va se mettre quand même à faire du grand cinéma. et à parler de l'histoire de France, mais peut-être aussi pour essayer de réhabiliter un peu sa mémoire.
En tout cas, il n'est pas sorti brisé. En colère, certes.
En colère, démoralisé, mais ça ne l'a pas empêché de travailler. Au contraire, il a fait ses plus grands films.
Alors aussi, tout de même, beaucoup de problèmes de santé. Alors, il en a toujours un peu eu.
Il a toujours eu des rhumatismes.
Mais effectivement, en vieillissant, il reste néanmoins à la tête des réalisations cinématographiques, au fond de son lit, donnant les instructions.
Il n'y a qu'un ou deux films à la fin qu'il n'a pas pu tourner, comme Assassin et Voleur, par exemple, avec Serrault et Poiré. Mais sinon, il a toujours été aux commandes de ses films, et surtout à l'écriture. Il a toujours été à l'écriture de ses films.
Alors, on en a parlé au cours de l'émission, mais on a un peu oublié le sujet parce que, comme je le dis, la vie et votre biographie de Guitry sont particulièrement riches et denses. Il y a des aspects absolument formidables dans cet ouvrage. Les rapports de Guitry à l'argent, finalement, il n'a jamais été ruiné. Bon, certes, il y a eu quand même une confiscation. Je crois qu'il n'a pas pu bénéficier. Enfin,
non, il y a eu un gel de ses possessions. Il a toujours gagné énormément d'argent. Il a toujours dépensé énormément d'argent. Et à la fin de sa vie, quand il est mort, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus dépensé qu'il en avait gagné, puisque l'Anna Marconi, c'est pour ça que je dis qu'on ne l'aime pas beaucoup dans les amateurs de Guitry, mais elle a quand même du mérite, parce qu'elle s'est quand même retrouvée hyper endettée. Donc c'est là qu'elle a dû vendre l'hôtel particulier, elle a dû vendre des œuvres. Mais il ne payait pas ses factures, par exemple ses fournisseurs, il oubliait de les payer. Mais ce n'était pas de la malhonnêteté, c'était vraiment que c'était, je pense que c'était une chose, Guitry vivait pour le théâtre. De toute façon, il se levait le matin, il écrivait, il allait jouer le soir, il rentrait, il passait des coups de fil à minuit, et puis après il allait dormir, et le lendemain il refaisait ça, il ne vivait que pour le théâtre.
Bon, c'est vrai qu'il a eu, dans les années 1920, des manoirs, notamment à quelques 100-150 kilomètres de Paris, 800 mètres carrés habitables. Et alors, il y a cette citation formidable de Guitry sur l'argent. Il dit « Être riche, encore une fois, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est en dépenser. L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche. Il n'en a pas quand il rentre. »
C'est formidable. C'est dans le roman d'un tricheur. Et puis c'est surtout un collectionneur, Guitry. C'est-à-dire qu'il a amassé une collection phénoménale de tableaux. On parlait de Monet, on parlait de...
Oui, de lettres autographes aussi.
Des manuscrits supposés de Molière, enfin des choses comme ça, qui sont assez extraordinaires et qui sont totalement perdus, puisque une grosse partie de la collection appartenait à André Bernard, qui a tout vendu il y a 7 ou 8 ans. Et donc, quelques personnes en ont racheté. Moi, j'ai 2-3 choses. Il y a des gens qui... Il y a Yann Moix, notamment, qui a beaucoup de choses aussi. Voilà.
Antoine Gavory, un grand merci d'avoir évoqué plusieurs facettes de ce prodigieux comédien, homme de théâtre, Sacha Guitry. Bien sûr, pour en savoir plus et prolonger notre conversation, procurez-vous en librairie Rendez-nous Sacha Guitry, l'ouvrage de notre invité Antoine Gavory, aux éditions Ovadia. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouverez en podcast via internet sur le www.yannickpetit.fr. Rendez-vous samedi prochain à 11h avec un autre invité. Encore merci Antoine Gavory, à la fois pour ce plaisir de lecture, je fourche à foison, mon Dieu, et merci d'être venu avec autant d'enthousiasme devant notre micro. Au revoir à toutes et à tous, et à samedi prochain.